Donc ce soir, je vais dire quelques mots d'introduction, en essayant de revenir sur le sens précisé, donc en espérant que ça parle à tout le monde. C'est vrai qu'on peut toujours revenir sur le sens de la pratique d'une manière générale. C'est quelque chose que je fais souvent en me demandant, dans le fond, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là. Ne pas s'engager dans une sorte d'enjeu technique pour améliorer certaines choses et puis oublier finalement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est là. Donc je vais commencer par une vieille histoire pour les personnes qui sont nouvelles, donc une histoire que vous connaissez déjà peut-être, ceux qui ont déjà assisté à pas mal de retraites, mais c'est une histoire qui me semble extrêmement parlante, en tout cas qu'on peut faire parler. C'est une histoire que Martin Buber raconte dans un petit livre qui s'appelle « Les chemins de l'homme », un livre assez remarquable avec des petites histoires mais qui sont vraiment lumineuses. Et dans c'est la première histoire dans son texte, et il raconte l'histoire d'un rabbin qui a été mis en prison, a été dénoncé par des partisans d'une autre secte, d'une secte concurrente. Il a été mis en prison dans la tour de Saint-Pétersbourg. Et le chef des gardes de la prison, il a entendu la réputation de ce rabbin, il sait que ce rabbin semble être extrêmement sage. Donc le soir venu, il va le voir dans sa prison, et puis dans le fond, il essaie de voir est-ce qu'il est... Il est vraiment aussi sage qu'on le dit. Et alors il lui pose une question, il essaie de lui poser une colle dans le fond, en lui disant, écoute, au début de la Genèse, Dieu demande à Adam, il lui dit, où es-tu? Dis-moi, ben, s'il est omniscient, on se demande pourquoi il demande à Adam, où es-tu? Il pose une question tout à fait théorique et le rabbin ne répond pas directement à cette question. Il interroge le chef des gardes, il lui dit, écoute, toi, voilà, dans ta vie, tu as 46 ans maintenant. Évidemment, le chef des gardes ne lui avait jamais dit, donc ça l'impressionne déjà. Il lui dit, tu as 46 ans, là, mais où est-ce que tu es dans ta vie? Et il dit que le rabbin dit que cette question, où es-tu, elle n'est pas seulement demandée à Adam au début de la Genèse, mais elle est demandée à chaque personne, à chaque instant, où es-tu? Non pas pour dire, voilà, ben, je suis au Marel, en Ardèche, etc. Mais où es-tu? Où est-ce qu'on se situe? Et dans le fond, c'est un petit peu l'essence de ce que nous étudions là. C'est finalement d'être là où nous sommes, alors qu'en général, nous sommes affairés par mille choses, dans l'anticipation, dans le fait de vouloir accomplir quelque chose qui nous projette dans l'avenir. Et finalement, nous ne sommes jamais là sans même nous poser la question « Où es-tu ?» Comme si cette question, c'était une question qui n'avait pas lieu d'être. On s'affaire constamment sans même se rendre compte qu'on est affairé et qu'on n'est pas là où on est. Alors évidemment, on peut s'affairer pendant toute sa vie, accomplir beaucoup de choses pratiques, peut-être accumuler de la connaissance, mille choses. Et finalement, sans jamais avoir été là où on est, avoir passé à côté de sa vie, sans jamais avoir été là en vie. Et ça, évidemment, c'est quand même assez dramatique que de passer une vie à côté de sa vie. En plus, en croyant qu'on existe plus intensément quand on a plus de projets, quand on vit plus rapidement, quand on accomplit plus de choses. Dans le fond, plus on se coupe de soi-même en se projetant dans les tâches à accomplir, plus on met d'intensité dans ce que on éprouve, plus on croit qu'on est vivant, alors que c'est l'inverse, plus on est coupé de soi-même. Donc là, dans notre retraite, évidemment, c'est l'inverse. On a peu d'activité, au contraire, ce qu'on essaie d'explorer, c'est justement cette question « Où es-tu ?» pour essayer de découvrir, dans le fond, où est-ce que je suis à chaque instant. Maintenant, on va essayer de préciser comment aborder cette question, parce que « Où es-tu ?» ben, ça paraît quand même assez abstrait. La réponse, la première, c'est « Je suis là, ok, dans la salle de méditation, sur mon coussin et autres, mais bon... » Ça reste quand même quelque chose à distance, ça reste une réponse tout à fait mentale et qui n'est pas dans l'expérience même de ce qu'on fait. Et ça, évidemment, cette manière d'être tourné vers le monde, vers l'entourage, c'est quelque chose que nous apprenons extrêmement tôt dans la vie, étant petit enfant déjà, et c'est quelque chose que nous avons besoin. C'est nécessaire, en tant qu'être humain, de pouvoir se situer dans l'environnement, dans le monde, de pouvoir agir sur lui, pour des questions de survie, de vie. Donc cette manière de nous occuper de ce qu'il y a autour de nous, c'est quelque chose d'essentiel. Mais le problème, c'est que ça, c'est essentiel pour la survie, mais pas pour la vie. On oublie, dans le fond, si on veut survivre, on oublie ce qu'est vivre, dans le fond. On est tellement préoccupé à s'assurer de l'avenir, etc., qu'on oublie ce simple fait, dans le fond, que si on fait ceci, c'est pour ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, on peut le découvrir que dans l'instant. On ne peut pas découvrir ce que nous sommes demain ou hier. Quand on parle de si découvrir ce que nous sommes, c'est pas historiquement racontant toute la vie de ce qu'on a fait, ni psychologiquement, voilà, moi j'ai des tendances, voilà, je suis un petit peu, je sais pas, impatient, impatiente, etc. C'est pas du tout ce dont il s'agit, c'est quelque chose de bien plus essentiel. Cet être que nous sommes, avant toutes ces caractéristiques. Donc nous avons appris à gérer le monde, heureusement, plutôt bien, on est assez habile, des fois beaucoup trop habile, mais avec cette, on pourrait dire que ce succès, finalement, fait qu'on oublie de revenir à l'essentiel. Et là, à nouveau, dans notre retraite, il y a peu d'activités, on fait des choses très simples, un petit peu des activités communes pour le lieu, évidemment, pour pouvoir vivre en communauté, pouvoir manger, mais les activités sont les plus simples possibles, l'assise en silence, la marche tranquille, pour donner un cadre qui nous permet justement d'explorer un peu cet aspect de, ou répondre à cette question dans le fond, où es-tu? Et toute la structure de ce cadre, j'y reviendrai un peu plus tard, mais elle est uniquement faite pour pouvoir explorer ceci, pour pouvoir vraiment explorer cette question profonde, où es-tu? Évidemment, si nous étions sur une autoroute avec beaucoup de trafic, ce n'est pas le meilleur endroit pour poser cette question, où es-tu? Il y a des choses à gérer, il faut vraiment regarder, ou je ne sais pas, voilà, peut-être que les cuisiniers ils sont habiles, ils connaissent bien, mais si on est vraiment dans une immense activité, c'est plus difficile d'être disponible à explorer cette question. Donc là, on se donne tout loisir de pouvoir le faire. Dans la simplicité de nos activités, c'est pour ça qu'un cadre assez précis, Fred en a déjà donné quelques éléments, c'est pour être plus disponible. Et si nous sommes en silence aussi, c'est pas parce que le silence aurait une valeur en soi, c'est simplement parce que la parole, c'est quelque chose d'immensément riche, mais qui nous transporte aussi ici et là, qui pourrait, dans le fond, nous attirer vers l'extérieur. Beaucoup de gens ont plein de choses à raconter qui sont intéressantes. Mais ça, on sait comment le faire. On n'a pas besoin de venir en retraite pour l'apprendre. Donc on essaie de se rendre compte, qu'est-ce qui se passe dans le silence? Est-ce que je peux être dans le silence? Comment est-ce que je me découvre? Et finalement, cette manière d'être avec les autres, qui n'est pas une manière où il faut toujours raconter des histoires pour se situer ou demander à l'autre ce qu'il fait ou ce qu'elle fait pour la situer, mais tout d'un coup d'être simplement là dans ce rapport aux autres avant le discours, dans la simplicité simplement d'être là ensemble dans le silence. Alors on peut se dire, mais comment faire cette exploration? Ça semble, oui, ça semble intéressant, mais comment le faire? Et j'ai pris une prière que les moines dans le sud-est asiatique récitent, mais qui vaut évidemment pour tout le monde, qui s'appelle un jour propice. Voilà ce que les moines, les nonnes récitent Lors de certains jours du mois, il récite cette prière qui s'appelle un jour propice. Voilà ce que cette prière ou ces remarques, cette réflexion dit. Il dit, ne cherchez pas le passé, n'anticipez pas l'avenir, laissez le passé derrière vous. Ne tentez pas d'attraper l'avenir, percevez clairement ce qui est présent, précisément là où ça surgit sans vaciller. Lorsqu'il est conscient de ce qui est présent, l'esprit se développe. Pour la personne qui demeure ainsi attentive jour et nuit, le sage parle d'un jour propice. Les indications sont simples. Essayez de rester là à l'instant, avec ce qui surgit d'instant en instant. On n'est pas dans l'activité, dans l'accomplissement de quelque chose de particulier, puisque ce qui est là est déjà là, il n'est pas à faire. Donc on n'a pas à faire quelque chose. Et c'est souvent ce qui est déconcertant. Souvent les gens demandent, les pratiquants, ils disent mais qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire, je demande que ça. Je me suis posé cette question et j'ai posé cette question aussi très souvent. Ce n'est pas une question bizarre. Mais qu'est-ce que je dois faire, dans le fond, pour être avec l'expérience présente? On a tellement l'habitude de faire pour accomplir que tout d'un coup, on est là dans un contexte où faire n'agit pas, qu'on est pris au dépourvu. La boîte à outils habituelle ne fonctionne plus. Et là, on est pris au dépourvu, on n'a plus d'outils. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Alors, quand on parle d'expérience présente, d'explorer ceci, sans projet particulier, on peut se dire, on ne voit pas bien l'intérêt, on ne voit pas bien le bénéfice, entre guillemets. On a l'impression que finalement c'est une sorte d'acceptation simplement de ce qui surgit dans l'instant présent. Moi je suis venu pour une transformation profonde. Oui, c'est juste, on comprend bien. Et tout d'un coup, transformation profonde, voilà ce qu'on me dit. On me dit, restez simplement avec ce qui surgit dans l'instant. On a l'impression que là, ça joue pas. Mais la transformation la plus profonde que l'on puisse éprouver, c'est lorsqu'on cesse de transformer. Ça, c'est une transformation radicale, bien plus profonde que toutes les transformations qu'on pourrait effectuer. Ça, c'est la grande transformation. C'est dans cette attitude radicalement nouvelle qui fait qu'on ne cherche pas autre chose, comme le texte le dit, n'anticipez pas l'avenir, ne cherchez pas le passé. Eh bien, lorsqu'on arrête de se perdre dans ceci, tout d'un coup, il y a quelque chose que l'on découvre de manière totalement nouvelle. C'est justement la richesse de ce qui se manifeste dans l'expérience présente. Et en général, on passe à côté parce qu'on n'a pas le temps. Comme si on anticipe déjà autre chose. Et là, on se donne la disponibilité, tout d'un coup, d'explorer ce qui est là. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait le... On n'a jamais fini d'explorer ce qui se passe juste dans l'instant. On croit parfois qu'en nommant, il se passe ça, il y a un peu de fatigue... Il y a un petit peu de lourdeur dans la poitrine, un peu de brûlure, dans un des genoux, dans une épaule. On dit voilà, donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et maintenant, la transformation extraordinaire, où est-ce qu'elle se passe? Ça fait vraiment partie du processus. C'est parce que le fait de nommer, ce n'est pas encore éprouver pleinement ce qui se passe dans l'instant. Le fait de nommer, c'est justement on substitue à ce qui se passe une sorte d'interprétation et on croit que c'est ça, être en contact avec ce qui surgit. Et non, ça, c'est simplement avoir reconnu, nommé, ramené à du connu, c'est-à-dire à du passé finalement. Donc si on peut explorer, éprouver cette expérience qui surgit dans l'instant de manière nouvelle, là il y a une découverte, il y a toujours une découverte. Il n'y a pas de découverte quand on la ramène à du passé et qu'on ramène à, voilà, des brûlures dans le genou par exemple, ou lourdeur dans la poitrine. Si j'en reste là, ben, voilà, je découvre rien. Mais si je suis vraiment en contact avec ce qui se passe, là il y a toujours quelque chose à découvrir. Mais se découvrir, c'est pas ce qu'on met en mots, mais c'est ce qu'on éprouve. Donc, voilà pourquoi la retraite est structurée comme elle est, pour se donner l'opportunité de découvrir ceci. Et c'est extrêmement subtil et ça demande beaucoup de sensibilité. Pour moi, c'est un peu comme si on avait une balance de pharmacien, je ne suis pas spécialiste dans ceci, mais eh bien, si on a une balance de pharmacien, il faut qu'elle soit dans un contexte tranquille, et on ne peut pas avoir beaucoup de vibrations autrement. Comment est-ce qu'on pourrait peser quelque chose d'extrêmement léger? Ben, ce qu'on développe aussi, c'est quelque chose d'immensément sensible et subtil, et on ne peut pas mettre des stimulations qui sont beaucoup trop fortes. S'il y a des stimulations fortes, ça va déranger dans le fond cette exploration. On pourrait dire que ça va déranger cette balance ou la détruire. Donc pour nous aussi, si on veut essayer d'être très très sensible pour découvrir la richesse de cette expérience présente, bah, il faut quand même cette sensibilité qui se met au niveau de l'expérience, c'est-à-dire sans forcer et aussi sans qu'il y ait des stimulations trop fortes. Voilà pourquoi on est dans un endroit ici extrêmement, extrêmement tranquille. Voilà pourquoi on vit de manière tranquille les uns avec les autres, pour pouvoir avoir cette sensibilité. Et on sait très bien, pour les personnes qui ont déjà fait des retraites, quand tout d'un coup quelque chose nous dérange, il peut y avoir un petit truc à la cuisine, au réfectoire, qui fait que des émotions surgissent, on vient méditer, puis on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui nous agite, il n'y a plus cette sensibilité, ça fera partie du processus évidemment, mais il y a une stimulation un peu trop forte, et puis on sent un peu ce déséquilibre qui surgit. Donc le cadre que nous avons là, la vie communautaire que nous avons, c'est pour nous permettre cette exploration beaucoup plus sensible. Donc méditation, c'est un terme que toutes les traditions spirituelles ou même les philosophes utilisent et donnent dans des sens un peu différents. Quelquefois c'est une réflexion, quelquefois c'est la lecture d'un texte sacré ou la lecture de la Bible. Ici, dans la tradition bouddhique, c'est quelque chose d'assez précis. Ce n'est pas unique dans la tradition bouddhique, mais dans la tradition bouddhique, bien, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe en soi, cette conscience de soi-même, pas de moi-je, mais cette conscience de l'expérience présente à chaque instant. Et pour ceci, on développe il y a deux aspects de la méditation. D'abord, il faut un petit peu calmer l'esprit, il faut qu'il se stabilise. S'il n'est pas stable, s'il passe d'une réflexion à une autre, du passé à l'avenir, d'une anticipation, etc., à ce moment-là, l'esprit est agité et il a pas moyen d'être dans ce contact subtil avec l'expérience présente. Donc c'est important, tout d'abord, d'amener un petit peu de tranquillité, de stabilité. C'est ce qu'on appelle le calme mental, on peut donner des termes. C'est bien ce que décrit cette prière, si vous voulez, sans constamment se tourner vers le passé ou l'avenir, mais s'intéresser, explorer ce qui surgit dans l'instant, quelle que soit l'expérience. Donc là, on a un aspect de la pratique qui est important, qui est de se donner une sphère d'expérience. On limite la sphère d'expérience. Il se passe tellement de choses, on peut penser. Il y a des états mentaux de fatigue, d'agitation. Donc on limite la sphère d'expérience pour que l'esprit puisse, dans le fond, dans une sphère d'expérience plus limitée, se tranquilliser. On lui donne une tâche plus simple. Ces tâches plus simples, ça peut être attentif aux sensations corporelles qui accompagnent la respiration, la présence du corps dans sa totalité, les sensations dans les mains quand elles reposent l'une sur l'autre. Donc une sphère beaucoup plus limitée qui fait que l'esprit est moins sollicité et il peut se tranquilliser. Donc c'est un aspect important. Bon, on revient toujours à ceci. Quand l'esprit est beaucoup plus stable, quelquefois c'est plus ouvert, on est attentif à une plus grande richesse d'expérience. Et puis s'il y a trop d'agitation, de sollicitation, à ce moment-là, on revient dans cette zone qui permet un peu de stabiliser l'esprit. Donc il y a cet aspect de calme, de la tranquillité aussi dans nos activités, la marche tranquille et haute, qui permet de ne pas trop nous agiter. Et puis le deuxième aspect, c'est ce qu'on peut découvrir dans ce contact à l'expérience présente. Là, c'est l'acuité, si vous voulez. L'autre, c'est la stabilité. Là, c'est l'acuité. C'est l'aspect tranchant, perçant de l'esprit, même si ces images, elles sont un peu trompeuses, qui permet, dans le fond, tout d'un coup, de percevoir clairement ce qui se passe dans l'instant, ou de l'éprouver clairement. Donc la méditation, ce n'est pas tellement une technique. On peut avoir quelques éléments techniques pour calmer l'esprit, mais ce n'est pas tellement une technique qu'on apprendrait, qu'on voudrait maîtriser. C'est plutôt une attitude vis-à-vis de la vie, attitude vis-à-vis de ce qui surgit dans l'instant. Une attitude, une sensibilité, un travail d'artiste et pas d'ingénieur. J'ai rien contre les ingénieurs, mais ils ont leur utilité, mais là, eh bien, c'est cette sensibilité d'artiste qui nous permet, un musicien ou autre, une musicienne, qui permet tout d'un coup d'avoir cette sensibilité, et nous aussi, dans notre pratique, qui nous permet d'essayer de ressentir clairement ce qui surgit dans l'instant. Donc une attitude qui est ouverte à ce qui se passe dans l'instant. On reviendra là-dessus, évidemment.